Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Bienvenue sur le podcast Productif au quotidien, ici Mathieu Desroches. Et aujourd'hui, on va discuter de l'impact de notre état d'esprit sur notre efficacité. Car vous savez, la productivité, c'est pas seulement une discipline technique du genre se faire une to-do list, organiser sa boîte de courriel, organiser son bureau de travail, organiser sa paperasse. Non, la productivité a aussi une dimension comportementale, voire même psychologique. Il y a tout un état d'esprit qu'il faut parvenir à maîtriser pour vraiment performer à notre plein potentiel, donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que dans le fond, la majorité de tous les éléments de gestion du temps dont on parle ici sur ce podcast, que ce soit par exemple le passage à l'action, notre façon de nous organiser, notre motivation vis-à-vis du travail, notre discipline personnelle, toutes ces choses-là, ces composantes-là de la productivité, sont intimement liés avec notre psychologie et même avec la définition qu'on peut avoir de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, pour justement traiter ce sujet-là qui est un peu plus pointu, j'ai un invité spécial avec moi qui s'appelle Gaétan Rossier. C'est aussi un spécialiste de la gestion du temps pour les entrepreneurs. Il est le fondateur d'une méthode de gestion du temps, d'un programme qui s'appelle le système Chronos. Et dans le fond, Gaétan se fait surnommer par ses clients de coaching le maître du temps. C'est d'ailleurs le nom de son site web, lemaitredutemps.fr. Et ce que j'apprécie de l'approche de Gaétan Rossier par rapport à la gestion du temps, c'est que lui, il se spécialise vraiment dans ce côté-là plus psychologique, comportemental. Justement, sa méthode, le système Chronos, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il aide les gens à mettre en œuvre un système d'organisation adapté à la psychologie de la personne. Parce que vous savez, et je vais en parler dans l'épisode d'aujourd'hui, il n'y a pas de méthode d'organisation universelle. Oui, il y a des principes généraux de gestion du temps qui s'appliquent à tout le monde, mais ultimement, quand on parle de mettre en place une méthode d'organisation, un système, il faut que ça soit adapté à notre personne. Et donc lui, Gaétan, dans son approche de gestion du temps, c'est ce qu'il fait. Il travaille vraiment sur le côté psychologique, le côté là, quelle est ta personnalité, ton comportement. Et de cette manière-là, il est en mesure de pouvoir diriger les gens vers les meilleures astuces de gestion du temps. Donc aujourd'hui, justement, on va parler de tout ça, de comment, en fait, notre état d'esprit, notre mindset peut nous propulser en termes de gestion du temps ou nous nuire. Parce que vous savez, parfois, il y a plusieurs blocages qu'on peut expérimenter. Parfois, moi, j'ai des gens qui viennent me voir en disant « Mathieu, je suis organisé, j'ai ma to-do list, j'ai mon agenda, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je n'arrive pas à passer à l'action, je ne suis pas motivé, je manque de discipline. » Et donc, clairement, ce type de défi-là qu'on peut rencontrer, on est plus dans la dimension là, du mindset, là, de la psychologie. Alors, justement, dans l'entrevue que je vais vous présenter aujourd'hui avec Gaétan Rossier, on va effleurer un peu ce sujet-là dans l'espoir de vous donner des conseils pour évidemment avoir un mindset, un état d'esprit gagnant, un état d'esprit qui vous permet d'être le plus efficace possible dans votre vie de tous les jours. Avant de sauter dans l'entrevue, je vous rappelle comme à chaque épisode que vous pouvez engager la discussion en lien avec l'épisode d'aujourd'hui sur mon site web. Aujourd'hui, on est à l'épisode 9, donc vous vous rendez sur mon site web au mathieuderoches.com/09. Vous allez avoir évidemment la description de l'épisode d'aujourd'hui et dans le bas de la page, il y a une boîte de commentaires. Alors, si vous avez une question, que ce soit pour moi ou Gaétan Rossier, notre invité d'aujourd'hui, ou que ce soit pour dire un commentaire, un mot d'encouragement, vous pouvez engager la discussion sur mon site web à cet endroit-là. Je vous invite également à rejoindre, si vous n'en faites pas déjà partie, ma newsletter pour le podcast Productif au quotidien. Vous vous rendez au mathieuderoches.com/podcast. Et dans le bas de la page, il y a un formulaire d'inscription. Ça va vous permettre en fait de recevoir un courriel à chaque fois que je mets en ligne un nouvel épisode, donc une fois par semaine. Je vais vous donner un peu plus de détails, de descriptions sur l'épisode. Je vais vous envoyer le lien de l'épisode, évidemment. Et en faisant partie de ma newsletter, je vais également vous donner un petit cadeau. Vous allez avoir accès à mon répertoire de livres sur la productivité. J'ai une page privée sur mon site web dans laquelle j'ai répertorié là, plus de 200 livres sur la gestion du temps. Alors, en vous abonnant à ma newsletter, vous allez avoir accès à ce répertoire-là et évidemment à tous les conseils de gestion du temps ainsi que les offres spéciales que j'envoie à mes abonnés de temps à autre. Donc, mathieuderoche.com/podcast, vous vous inscrivez à la newsletter. Et encore une fois, j'insiste sur ce point-là, si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast à plus de personnes et si vous m'écoutez via iTunes comme lecteur de podcast, s'il vous plaît, laissez une évaluation positive du podcast sur iTunes. Ça va me permettre justement de rejoindre encore plus de gens qui pourraient bénéficier de ce podcast-là. Alors, si vous êtes prêts, on va aller directement avec l'entrevue d'aujourd'hui. Alors, Gaétan Rossier, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Productif au quotidien. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec grand plaisir, Mathieu.
Gaétan, tu es aussi un spécialiste en gestion du temps comme moi. Tu fais un travail incroyable, tu donnes des formations, tu fais du coaching. Et ce que j'apprécie beaucoup de ce que tu fais, c'est que toi, tu te spécialises vraiment dans la dimension plus psychologique, comportementale de la gestion du temps. Moi, je dis souvent quand j'enseigne sur ce sujet-là, je dis que la productivité, il y a toujours deux grandes dimensions. Il y a la dimension, évidemment, technique qui consiste à tous les outils de travail, la façon de structurer nos journées et toutes ces choses-là. Mais il y a également une dimension comportementale qui a trait vraiment à notre état d'esprit, nos habitudes, notre motivation interne, notre autodiscipline. Et toi, tu te spécialises vraiment dans la notion du comportement humain, justement. Et ton but, toi, c'est d'aider les gens, évidemment, à reprendre le contrôle de leur temps, mais surtout en se créant un système qui est adapté à leur personne. Parce que il y a une chose qui est super importante à mentionner, c'est que chaque être humain est différent, évidemment, et il n'y a aucune méthode de gestion du temps qui est universelle. Hein? Je ne peux pas, par exemple, moi j'ai une méthode pour m'organiser, mais ça ne veut pas dire que parce que ça fonctionne pour moi, ça va fonctionner pour tous les gens. Alors, ce que j'aime du travail que tu fais dans ce domaine-là, c'est que toi, vraiment, tu fais un travail de réflexion avec tes clients pour les amener vraiment à comprendre qui ils sont et se développer une méthode qui est adaptée vraiment à leur fonctionnement. Donc, aujourd'hui, Gaétan, on va parler de plein de belles choses. Justement, notre thème, c'est vraiment, on veut discuter de comment notre mindset, ou plutôt notre état d'esprit, influence notre efficacité au quotidien. Mais avant ça, avant de plonger dans le cœur de l'entrevue aujourd'hui, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours en lien avec la gestion du temps. Évidemment, on te surnomme le maître du temps, c'est le nom de ton site web, c'est un peu ta marque de commerce. Mais avant de pouvoir être le maître du temps, ben, t'as probablement un cheminement, t'as commencé quelque part. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus sur ton cheminement? Comment t'es devenu, en fait, à te faire appeler le maître du temps?
Alors, ça commence quand j'ai eu 16 ans. Je me suis rendu compte en fait que il y avait des personnes autour de moi qui vivaient avec beaucoup de regrets. Et je me suis dit c'est pas possible de vivre avec autant de regrets. Et je me suis dit quelle est la composante fondamentale du regret? Et dans la majorité des cas, c'est justement la fonction de la gestion du temps dans le cadre de notre vie. Parce que si on arrive à gérer notre temps, on gère notre vie. Et je me suis dit ok, ce serait important pour moi de développer cette thématique là. Et je me suis dit, OK, on va commencer à développer quelques projets. J'ai fait pendant 11 ans du judo. À côté, je faisais des vidéos sur YouTube. Je m'amusais dans mon adolescence, comme majorité des adolescents. Puis j'ai commencé à développer un projet, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis, en parallèle de ça, je me suis dit, tiens, la thématique de gestion du temps, l'efficacité, je vais commencer à lire dessus. Je vais commencer à m'informer. Les David Allen, les Brian Tracy, tous les experts, en fait, qui ont créé un petit peu cette industrie. Et j'ai mis en pratique tous les livres que j'ai pu lire et je me suis dit, OK, là, il y a un problème. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit en introduction à ce podcast, bon nombre d'experts, en fait, vendent leur méthode comme étant un peu la méthode miracle sans faire preuve vraiment d'empathie et sans avoir conscience qu'on est tous différents. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'ai vraiment testé plein de méthodes, plein de choses et j'avais un petit peu cette conscience d'hyper-analyse, de comprendre un petit peu pourquoi en fait ça fonctionnait pour moi ou pourquoi ça ne fonctionnait pas pour moi. J'ai fait ça depuis très longtemps parce que j'ai fait un apprentissage d'électronicien qui avait pour but justement de comprendre l'électronique. Et aujourd'hui, je fais pas du tout ça. Je suis spécialisé justement dans l'accompagnement d'entrepreneurs qui souhaitent améliorer leur gestion du temps et leur efficacité avec justement, comme tu l'as présenté, tout ce côté comportemental et vraiment ben, l'état d'esprit d'ordre général. Et en fait, à la suite de ces recherches, de mes expériences, ben, je me suis rendu compte qu'à 20 ans, je développais 9 projets en parallèle de mes études. Je manageais entre 30 et 40 personnes au quotidien, en fait. Et je me suis dit, OK, là, il y a eu une petite différence entre le avant-après. C'est-à-dire que c'est pas juste les outils ou les techniques que j'ai pu mettre en place. Il y a vraiment eu une élévation, en fait, de mon système de croyance en pensant de ce qui était possible ou pas possible. Et ça vient notamment d'une citation que j'aime beaucoup de Henry Ford, peut-être que tu la connais aussi. Que tu crois que c'est possible ou que tu crois que c'est impossible, dans les deux cas, tu as raison. Et en fait, j'ai commencé à développer ce côté vraiment de compréhension des principes, des lois fondamentales de l'efficacité et de la gestion du temps, et vraiment comprendre qu'est-ce qui faisait que certaines méthodes fonctionnaient pour d'autres et ne fonctionnaient pas à certains cas. Et j'ai commencé à donner ces conseils en fait aux entrepreneurs, aux porteurs de projets de ma région, et ils ont commencé à avoir des résultats que même moi, je ne pensais pas être possibles. Donc ça peut être des fois deux d'efficacité quand on est justement directeur d'entreprise. On pense pas qu'on peut être deux fois plus efficace, et pourtant ça a été le cas. Et ça allait jusqu'à là mon record. J'aime bien jouer là-dessus. Mon record, c'est 1x12 d'efficacité d'une cliente qui justement, qui elle fait justement aujourd'hui en une journée ce qu'avant elle faisait en 12 jours. Donc quand on arrive à ce genre de résultat, bien sûr la personne pensait être efficace. On pense pas que c'est une personne qui ne sait pas gérer son temps ou quoi que ce soit. Elle était déjà bien engrangée là-dessus. Elle se débrouillait déjà très bien. Ben, on se pose la question, finalement, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est le petit hack? Est-ce que c'est le truc de la gestion de ses emails? Et en analysant le résultat de mes clients, et des personnes, en fait, que j'ai pu accompagner d'ordre général, je me suis dit, mais il y a clairement une composante état d'esprit, mindset, par rapport à l'efficacité. Et notamment parce que, on est un petit peu le résultat de notre vécu. Toutes les choses que l'on a vécues dans notre vie, toutes les expériences qu'on a eues, nous ont biaisé par rapport à une perception que l'on a du monde et de ce que l'on croit possible ou pas possible. J'aime bien prendre un exemple. Si ton prof de maths t'a dit à l'école que t'étais un fainéant, peut-être que c'est ancré justement dans ton subconscient que t'es un fainéant. Donc à chaque moment où tu vas devoir faire quelque chose, il y a peut-être ton subconscient qui va te rappeler comme quoi que c'est pas ta personne, c'est pas ton cadre de référence d'agir comme une personne qui est efficace, qui est motivée, qui montre l'exemple, par exemple. Tous ces éléments-là font que il y a des limites en fait à l'efficacité. Et ce que j'aime bien faire justement avec les personnes que j'accompagne, c'est mettre en lumière justement les rendre conscients de leur comportement et des croyances limitantes qu'ils peuvent avoir au quotidien. C'est comme ça que justement les gens, en appliquant les conseils que je leur donne, en ayant des prises de conscience, ils ont commencé à me surnommer le maître du temps.
Excellent. C'est super ton histoire parce que justement, les auditeurs qui nous écoutent dans l'épisode d'introduction de ce podcast, si vous voulez aller voir ça, mathieuderoche.com/01, j'ai aussi partagé là, mon cheminement, comment je suis devenu aussi un spécialiste de la gestion du temps. Et c'est drôle parce que je vois vraiment une similarité avec ton parcours aussi. J'ai fait pareil comme toi de commencer à lire les grands classiques de la gestion du temps, David Allen, Brian Tracy et tout ça. Donc, c'est super de voir ton parcours. Et justement, tu dis que grâce à tout ça, toi, tu as développé une spécialité, tu as commencé à mettre en œuvre une méthode, des astuces vraiment, et toujours orienté avec le comportement, et tu as vu vraiment des résultats auprès de tes clients qui maintenant te surnomment le maître du temps. Pourrais-tu me définir justement, c'est quoi pour toi être un maître du temps?
Pour moi, un maître du temps d'ordre général, c'est une personne qui ne manque jamais de temps pour faire ce qu'il aime. Donc, que ce soit par exemple faire du sport, que ce soit passer du temps avec ses amis, avec ses proches, sa famille, ou alors développer un empire avec différentes entreprises, chacun devrait en fait pouvoir avoir la capacité temporelle de le faire. Et l'idée que j'ai vraiment avec ce surnom, et notamment ce que je fais dans les personnes que j'accompagne, c'est d'aider les personnes finalement à se réaligner avec ce qu'ils veulent vraiment, déjà un. Pas tout le monde a envie de développer un empire, pas tout le monde a envie de... rester tranquille chez eux. Il y en a qui ont envie de développer des empires. Et l'idée, c'est vraiment de donner l'opportunité au niveau temporel, donner le temps nécessaire à la personne finalement de vivre sa vie à son plein potentiel et vivre une vie, surtout, ça c'est moi mon plus gros objectif de vie, ma mission de vie, c'est de faire en sorte que tout un chacun puisse vivre une vie avec le minimum de regrets possible. C'est-à-dire que qu'importe que l'on vive jusqu'à 80 ans ou même que l'on vive malheureusement jusqu'à 25 ans, ou que je meurs demain, eh ben j'ai envie de me dire « trop bien, j'ai eu une vie géniale ». J'ai pas envie d'avoir de regrets et je le souhaite à personne.
Donc vraiment la notion de maximiser notre plein potentiel, maximiser chacune des minutes, des heures qui nous sont offertes justement dans la vie pour accomplir justement les choses qui ont le plus de valeur. Et ça s'applique à la fois dans la vie personnelle et la vie professionnelle. Évidemment, dans le contexte professionnel, on parle d'avoir du temps pour accomplir les tâches, les projets qui vraiment vont amener notre entreprise à un autre niveau, vont peut-être générer une grande source de revenus. Dans la vie personnelle, évidemment, on parle de toutes les choses qui nous sont chères à nos yeux, que ce soit du temps avec la famille, avec les enfants, ou tout simplement du temps pour soi, du temps personnel, à juste avoir le temps, en fait, de lire un livre, le temps de relaxer, le temps de faire du sport. Donc, c'est un peu ça. Un maître du temps, c'est quelqu'un qui est en mesure littéralement d'optimiser son temps pour se consacrer sur les choses qui comptent le plus pour lui.
C'est très juste, ouais. C'est exactement ça.
Et on est d'accord que, bon, c'est subjectif dans le sens que c'est un nom. Moi aussi, j'utilise ce terme-là souvent. T'sais, d'ailleurs, ma formation s'appelle « Maîtriser et optimiser son temps ». Mais on est d'accord que dans une certaine mesure, on ne peut pas maîtriser à 100% notre temps dans un sens que la vie est aussi faite d'imprévus. Et si on regarde en date de cet enregistrement, on est actuellement dans la crise mondiale de COVID-19 et on voit très bien que même si parfois on a tous les meilleurs plans du monde, il y a parfois certaines choses qui nous frappent de plein fouet qui font en fait qu'on n'est pas 100% maître de notre temps. Mais dans l'esprit là du principe, je suis tout à fait d'accord sur le fait que être maître de son temps dans notre vie quotidienne, c'est vraiment être capable d'optimiser nos journées pour se consacrer aux choses qui comptent le plus.
Bah disons que je pense que c'est surtout une perception du monde, tu vois. Oui, bien sûr, tu auras des imprévus, bien sûr qu'il y aura potentiellement une pandémie de genre mondiale qui peut se passer, mais c'est seulement en fait justement une question de temps et de perception que tu as de ce qui se passe et des événements. C'est pour ça que je me concentre aussi beaucoup sur l'aspect état d'esprit, mindset et de l'accompagnement aussi là-dessus pour développer en fait les bons schémas mentaux pour vraiment comprendre le monde et le voir en fait sous une forme qui est toujours positive. Et je suis pas dans l'idée de dire ok tout est joli, tout est rose. Non, faut être réaliste, faut être sérieux par rapport à cette analyse. Mais clairement, même si notre plan nous fait défaut, c'est pas ce qu'on avait prévu. Il y a des imprévus, il y a des choses qui n'étaient pas forcément comme aujourd'hui. Ce qu'on vit, c'est pas vraiment la chose la plus joyeuse qui puisse exister. On peut quand même être en maîtrise de cette situation là. Et ça, c'est un truc aussi qui se développe au fur et à mesure des expériences, de notre prise de conscience et surtout de notre niveau de gérer en fait notre état d'esprit par rapport à ça, des craintes qu'on peut avoir, des peurs qui sont présentes et de réussir justement à contrôler tout ça pour pouvoir prendre des décisions où on a toujours l'impression d'être en contrôle. Et ça, c'est un truc que j'ai appris d'une expérience qui a failli me coûter la vie parce que justement, quand j'étais plus jeune, j'étais fortement harcelé à l'école, autant physiquement que verbalement. Je suis arrivé à un stade en fait où le seul point de contrôle que j'avais, donc j'étais une victime justement de l'harcèlement scolaire, c'était de me suicider. Et en fait, quand j'ai compris que le seul choix que j'avais, le seul contrôle que j'avais, c'était au moment de me suicider, c'était le moment où j'ai pris la prise de conscience de me dire qu'en fait, je suis en contrôle de ma vie. Et même si tous les éléments autour de moi, j'ai pas choisi, c'était pas prévu de me faire harceler pendant ma scolarité, j'ai pris conscience que ces éléments-là, en fait, c'était juste magique, c'était une magnifique opportunité pour moi pour grandir, pour évoluer. Et c'est simplement en fait le point de vue que l'on a sur la situation qui nous permet justement de prendre ça sur le bon pied ou alors le mauvais pied.
Et ça, c'est ça dans le fond, exactement. Ouais. On ne contrôle jamais les circonstances extérieures qui peuvent nous frapper de plein fouet, que ce soit ce que tu as vécu justement dans ton enfance ou par exemple la crise de COVID-19. Mais on contrôle toujours presque à 100% notre état d'esprit, notre attitude vis-à-vis des circonstances extérieures, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Excellent. Bon, c'est super. Écoute, j'aimerais ça qu'on plonge dans le sujet d'aujourd'hui. Justement, on a effleuré le sujet. On veut vraiment parler de mindset, l'état d'esprit. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'entends régulièrement auprès des clients aussi que j'accompagne de mon côté. Parfois, des gens mettent en œuvre toute une méthode d'organisation, un système. Ils écoutent parfois les conseils que je peux leur donner en termes de comment planifier tes journées, te structurer, organiser tes journées en fonction de ton niveau d'énergie, toutes ces choses-là, là, toute la dimension plus technique dont je mentionnais en introduction. Mais il arrive quand même que parfois des personnes, là, leur vrai blocage, là, c'est dans leur tête. Et notamment là, dans des domaines comme la motivation à l'égard du travail, la procrastination, l'autodiscipline, l'aversion vis-à-vis de leur travail. Hein, parfois, tu n'aimes pas ce que tu fais, donc tu n'es pas pleinement efficace. Donc, tout ça, là, on est vraiment justement dans la mentalité. En fait, au niveau de l'état d'esprit, là, ce qu'il y a entre tes deux oreilles. Et clairement, c'est une dimension qui est plus complexe, selon moi, à aborder. Mais toi, comme je le mentionnais, tu te spécialises plus dans cette dimension-là. Alors, c'est une question qui est assez large que je te pose, là, mais de façon générale, là, Comment est-ce que notre état d'esprit peut avoir un impact sur notre gestion du temps, sur notre efficacité dans la vie de tous les jours?
Alors, déjà, la thématique de l'état d'esprit, mindset aussi, c'est présenté à tort et à travers sur les réseaux sociaux, à travers différents livres. Il y a 36 000 façons de le présenter. On parle notamment de growth mindset, à l'inverse de fixed mindset. Donc, c'est cette idée que soit on a un état d'esprit qui cherche toujours l'amélioration et le fait de grandir, soit on a un état d'esprit fixe, on dit que ben ma foi c'est comme ça, je suis né comme ça, je peux pas évoluer. Et en fait, il faut comprendre premièrement que j'aime bien parler de caractère et notre personnalité en tant que telle, parce que tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est simplement la résultante en fait de notre vécu, de nos expériences, de nos croyances, de ce qui ont été partagés par nos parents. Et tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on est efficace ou pas. On voit le monde d'une façon ou pas. Tout dépend en fait de ce vécu-là. Et la première chose, c'est d'être vraiment consciencieux et de comprendre bah, qu'est-ce que c'est notre vécu. Je donnais l'exemple justement avant. Quand ton prof de maths te dit que t'es un fainéant, bah, peut-être que c'est ancré en toi que t'es un fainéant. Parce que bah, tes parents, ils te l'ont aussi dit quand tu faisais pas tes devoirs. Parce que tout ça, etc., etc. Et finalement, t'arrives à un stade où tu dois commencer à développer ton projet, tu dois entreprendre, tu dois résoudre des problèmes. Et il y a ton subconscient qui attaque à ce moment-là, entre guillemets. Et malheureusement pour toi, bah justement, il te fait défaut. Et c'est là, en fait, plutôt que de la gestion du temps, de comment gérer son planning ou bien faire sa to-do list, ce genre de choses, tout est lié, en fait, à la croyance que tu as de toi-même, de la personne que tu es. Tu vas agir, oui, d'une façon ou d'une autre, par rapport à cet élément-là. Tu vas être, notamment, utiliser le biais de confirmation. Si aujourd'hui, je me dis, je suis le roi de la procrastination, eh ben déjà, moi, je le dis à haute voix, mon cerveau le pondère déjà 7 fois plus parce que je l'ai dit à haute voix, et en plus de ça mon subconscient, mon conscient représente entre 5 et 10%, ça dépend des études, de toutes les pensées que l'on a. Donc la majorité des pensées que l'on a, en fait, elles sont subconscientes, donc on n'en a pas conscience directement, et ça, en fait, ça va altérer, en fait, notre comportement au quotidien. Donc comment faire, disons, pour reprendre contrôle de son état d'esprit? Ben, moi, il y a un outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est la reprogrammation mentale. Donc c'est un terme un peu barbare pour ceux qui ne l'ont jamais entendu. Mais finalement, j'aime bien le présenter sous cette forme-là, c'est que tu n'es jamais toi-même tant que tu n'as pas défini qui tu voulais être et tant que tu n'as pas fait les sacrifices et les efforts nécessaires pour devenir cette personne-là. Et en fait, ça, c'est une phrase que je vous invite à noter parce que elle représente en fait beaucoup de choses. Dans une grande majorité des cas, on est en fait la résultante de notre vécu, je l'ai déjà dit. Et on va rester cette personne-là tant qu'on n'aura pas pris conscience de qui on est vraiment, de la personne qu'on veut être, et des blocages et des croyances qui nous empêchent d'arriver à ce stade-là. Et quand on parle de procrastination, quand on parle de motivation, quand on parle d'autodiscipline, souvent on aime bien trouver des excuses. On aime bien se trouver des excuses. J'ai pas le temps, ça c'est la pire des excuses, ne le dites surtout pas. Ça programme votre subconscient à penser que vous n'avez pas de temps, donc ça vous aide pas à trouver du temps. Mais en plus de ça, ben ça a tendance à confirmer votre comportement. Si vous dites, ouais, j'ai des problèmes avec la procrastination, et la première opportunité que vous avez pour arrêter et vaincre la procrastination et passer quand même à l'action, c'est que vous procrastinez, et ben ça fait que vous allez automatiquement redonner davantage de croyance à cette croyance initiale en disant que vous étiez justement une personne qui procrastine. Et votre caractère et votre subconscient va être décrit et programmé en disant, bah voilà, Gaëtan, c'est une personne qui procrastine. Et au fur et à mesure, ça va être en fait une définition et un ancrage plus profond de la personne que vous êtes. Et donc, ben, sans traiter en fait, là, ça c'est mon point de vue, mais sans traiter tout le côté psychologie, toute la personnalité en fait que l'on a, toutes les méthodes et outils et connaissances des thématiques de gestion du temps sont inutiles. Parce que même dans le cadre d'une to-do list, tu peux te dire « Ok, je sais écrire une to-do list super bien, je sais comment faire la to-do list, ça fonctionne nickel, je sais planifier, je sais comment définir un agenda, je sais comment utiliser Trello, Evernote, etc. » Mais tant que ton subconscient et ta personne, vraiment ton caractère à sa plus grande personne, entre guillemets, ne se dit pas « Ok, il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse cette to-do list, il faut que je fasse », ça sert à rien en fait. C'est pour ça qu'avec mon programme, le système Chronos, j'aime bien traiter justement les trois thématiques. Parce que pour moi, pour maîtriser son temps, il faut maîtriser sa personne. Donc tout ce qu'on est psychologie, état d'esprit, mindset. Il faut maîtriser les thématiques de gestion du temps. Parce que si on n'a pas conscience de ce que c'est la procrastination, ce que c'est planifier, ce que c'est prioriser, vraiment en comprenant les principes qui sont derrière et qui font que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et si on n'a pas conscience des outils et des façons de structurer son organisation, eh ben, on n'a pas un système, en fait, qui est vraiment adapté à sa personne, à son quotidien et à ses objectifs. Et donc, du coup, on a moins de résultats. Et l'idée, c'est justement de trouver un petit peu le sweet spot, ce que j'appelle le système Chronos, entre ces trois thématiques. Donc, la définition de soi, sa personne, en fait, les thématiques de gestion du temps et toutes les méthodes et outils qui permettent de créer son système, en fait.
C'est super intéressant. Donc, c'est vraiment une approche holistique, dans le fond, là, qui amène d'abord, avant de plonger tête première dans les outils et toutes ces choses-là, c'est d'abord en fait de faire un travail sur soi là, pour comprendre justement nos blocages, nos perceptions, faire un peu de reprogrammation mentale lorsque nécessaire. Donc c'est super intéressant en tout cas comme approche.
Il y a un comportement que je vois souvent, c'est que tu vois, on cherche un outil, on cherche une application, un petit hack, un truc qui va faire la différence dans notre vie. Et en fait, si je vais tout à fait ma personne, je vais dire que ça, c'est juste du gros bullshit. En réalité, c'est juste qu'on cherche une excuse. Une nouvelle excuse, un nouveau livre, une nouvelle application qu'on va tester, qui va enfin changer notre vie. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, c'est juste être vraiment honnête avec soi-même, se rendre compte que justement, on a des problèmes de confiance en soi, se rendre compte que l'on a peur potentiellement du succès, se rendre compte qu'on a peur que mes parents me jugent parce que je réussis pas mon projet dans lequel j'ai dit que j'allais me lancer, se rendre compte que parce que justement, on n'agit pas de telle façon, eh ben, il y a notre copain, copine qui va nous juger par rapport à ces éléments-là. Et ça, c'est le côté, tu vois, difficile. C'est le côté justement que très peu de personnes sont prêtes à faire. Et c'est pour ça aussi qu'on aime bien me caractériser de méchamment gentil. C'est-à-dire que je mets en lumière tous les mensonges qu'on peut se raconter au quotidien, que tout le monde se raconte d'ailleurs, mais qu'on n'a pas conscience et ou qu'on veut surtout pas mettre en lumière parce que c'est un petit peu notre super secret qu'on veut que personne ne sache. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire parce que avec mon empathie et justement mon hypersensibilité, j'arrive facilement à prendre conscience du comportement de la personne et le mettre en lumière à ce moment-là. Et vraiment, si vous écoutez ce podcast, je vous invite vraiment à vous mettre devant votre miroir et vous dire vos quatre vérités. Même si c'est pas des trucs positifs seulement, c'est bien d'en avoir conscience et de se dire « Ok, ça c'est vraiment ce que je pense de moi ». Et quand on travaille là, après on peut se dire « Ok, qu'est-ce que je fais pour optimiser ça ? Comment je fais pour améliorer ça ? Ah, je me trouve gros, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui fait pas de sport. » Tu m'étonnes, tu peux le planifier autant de fois que tu veux dans ta semaine. Si dans ta tête tu te dis « Je suis gros », tu vas rester gros. Donc automatiquement, tout ton comportement va être décrit par un petit peu ton cerveau. En fait, c'est ton cerveau qui te contrôle plus que par tes envies. Votre cerveau, si j'aime bien dire, c'est votre cerveau, il s'en bat les couilles vraiment de vos envies, de vos rêves, de vos ambitions. Lui, il s'en fout. Lui, il veut juste une chose, c'est que vous réussissiez à survivre. Et si vous arrivez, en plus de ça, à faire en sorte que vous ayez des enfants pour faire poursuivre justement l'espèce, c'est génial. Mais il veut juste survivre. Donc, même si vous êtes dans une situation qui est vraiment merdique, mais que vous arrivez à survivre, il va rester là. Et vous n'allez pas forcément passer outre le cap.
J'aimerais ça, vraiment, là, c'est super pertinent ce que tu dis. Et on voit là, plus clairement justement comment là, parfois nos croyances limitantes nous limitent, justement, croyances limitantes qui nous limitent dans les choses qu'on veut accomplir. Et j'aimerais vraiment te poser une question très pratique. Là, pour quelqu'un qui... Je fais un exemple fictif. Disons quelqu'un qui vraiment a un rêve, a un projet. Disons que c'est le projet d'écrire un livre, OK? Et disons que cette personne-là, justement, elle s'est organisée, elle a suivi des cours techniques de gestion du temps, elle a son agenda, son plan de projet, elle a fixé des objectifs avec une date d'échéance, elle a tout ça. Mais intérieurement, dans son esprit, il y a quelque chose qui la bloque. Cette personne-là, chaque fois qu'elle veut se lancer et vraiment passer du temps à travailler sur son projet, disons que elle n'y arrive pas et que en faisant un travail sur elle-même, elle réalise que c'est parce que au fond d'elle-même, elle a peur, par exemple, d'être jugée par ses proches, par sa famille. Que ses proches, par exemple, lui disent « Tu es qui, toi, pour écrire un livre? Tu n'es pas qualifié, tu n'es pas crédible, tu es tellement imparfait. » Donc, on est vraiment vis-à-vis un blocage psychologique. Donc, à chaque fois, cette personne-là veut travailler sur l'écriture de son livre. Elle est organisée dans le sens technique. Elle a des bons outils. Elle a Evernote et tout le reste. Mais il y a quelque chose qui la bloque. Elle n'arrive pas à avancer comme elle le voudrait. Elle procrastine, elle évite son projet et elle ne comprend pas pourquoi. Mais disons que cette personne-là vient à toi et qu'en faisant un travail de coaching, vous arrivez justement à mettre le doigt, comme tu dis, toi, t'es gentiment impoli. Je pense que c'est le mot que tu as dit.
Méchamment gentil, oui.
C'est ça, méchamment gentil. Donc, mettons, en faisant un travail avec cette personne-là, tu arrives à mettre le doigt sur le problème. Mais en fait, c'est que je pense que ta croyance limitante, c'est que tu as peur du jugement de ta famille. Maintenant, quelle serait peut-être, dans cet exemple-là, une solution concrète, pratique? Comment toi, là, dans une approche de coaching, comment t'accompagnerais cette personne-là pour l'aider à surmonter justement ses blocages psychologiques et changer son mindset afin d'être plus productive dans le fond?
Ouais. Alors, il y a la version, tu vois, c'est un truc que j'ai déjà vécu qui m'a vraiment, qui m'a époustouflé en fait de la part d'un de mes clients. Il y a la version en fait directe. Bah, je lui dis, bah, va en parler avec ta famille, tu vois. Parce que peut-être c'est juste, tu vois, en anglais le fear c'est false expectation appearing real, tu vois. Donc vraiment, t'as l'impression que c'est une peur qui vont juger, alors qu'en fait, ça se trouve, ils en ont juste mais rien à faire que t'écrives un livre. C'est peut-être juste toi qui te crois, qui te raconte des histoires par rapport à ça. Donc la première chose, c'est peut-être d'aller discuter avec ta famille et te dire, ok, ben pourquoi en fait. Voilà, moi j'ai ce pressentiment-là que si j'écris mon livre, ben vous allez me juger, vous allez me dire que ben je suis pas vraiment assez qualifié pour écrire ce livre, ce genre de choses. Puis en fait, ben là, votre famille va peut-être vous dire, ok, mais en fait, non, j'ai jamais pensé ça, je le pense pas du tout. Pour moi, t'as envie d'écrire un livre, écris-le, vas-y, amuse-toi. Puis peut-être vous allez vous rendre compte que c'est vous-même qui vous jugez par rapport à l'écriture de ce livre en disant, mais je suis pas qualifié. Donc là, peut-être ça peut être ce travail-là déjà de dire avec la personne concernée. L'autre chose, c'est un changement de perspective, c'est-à-dire que, ok, si je passe toute ma vie, j'ai jamais écrit ce livre, je le fais jamais parce que j'ai peur. J'ai trop peur qu'on me juge. J'ai trop peur que les gens ils me critiquent en disant, ouais, il a écrit un livre. Franchement, il se prend pour qui, lui, ce genre de choses. J'ai trop peur de ça, du coup, je l'écris jamais. J'arrive sur mon lit de mort, je me dis, j'aurais bien voulu écrire ce livre quand même. Et déjà là, normalement, on se rend compte que bah, finalement, le jugement peut-être des proches, le jugement de la famille par rapport à ça, ou même de vos concurrents ou de n'importe qui, bah, il vaut rien en fait. Il vaut zéro. Les 5 secondes juste avant de mourir, vous êtes avec vous-même et rien qu'avec vous-même. C'est pas votre voisin à qui vous avez pensé. Vous avez pensé aux choses auxquelles vous avez vécu, vous avez pensé peut-être aux regrets que vous avez eus, en disant, ah, j'aurais bien voulu faire ça, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment voulu écrire ce livre. Déjà là, bah, ça te permet de instantanément casser un petit peu la peur qui peut être existante par rapport au jugement. Et qu'est-ce qui se passe aussi si je me fais juger? Qu'est-ce qui se passe si maintenant on me dit que je suis pas la personne qui est censée écrire ce livre? Qu'est-ce que ça me fait par rapport à ma vie? Bah, dans la majorité des cas, même la très grande majorité des cas, ça fait rien et ça change rien en fait. Donc pourquoi ne pas écrire ce livre? Et puis là, c'est plutôt un travail justement en interne avec les croyances limitantes que l'on a par rapport à nous-mêmes. Ah, parce que justement, quand on creuse et puis on va regarder un petit peu notre vécu, on se rend compte que bah voilà, quand j'avais 15 ans, j'ai voulu faire, je sais pas, un devoir sur un truc que je maîtrisais pas trop et j'ai eu une sale note par rapport à ce devoir. Et du coup, aujourd'hui, je me sens pas à l'aise de faire quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort dont je maîtrise pas forcément la thématique. Ah ben peut-être qu'il faut que je travaille plus dans ce cadre-là pour pouvoir créer en fait une meilleure confiance par rapport à cette thématique-là pour pouvoir écrire et me sentir légitime. Et en fait, il n'y a pas une réponse, tu vois, qui répond à ce cas de figure. Ça dépend vraiment de la personne et c'est ce que je fais justement dans le cadre des accompagnements individuels que je fais. Mais pour un grand nombre de personnes, bah, déjà les choses que je viens de dire, donc aller discuter avec la personne de prédilection. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple. J'avais le choix entre devenir ingénieur en électronique. Je m'intéressais à développer notamment des fusées, donc j'aurais pu bosser pour la NASA ou même Elon Musk, ou alors justement me lancer avec mon entreprise. Et ben voilà, mes parents, ils n'ont pas eu des grandes études, ils auraient bien voulu que je sois ingénieur, ils auraient même vraiment beaucoup voulu que je sois ingénieur, mais j'étais vers eux, je leur ai dit, écoutez, Je sais que vous avez envie que je fasse ça, mais je vais peut-être faire ça, bosser en tant qu'ingénieur et à 40 ans me rendre compte qu'en fait je suis passé à côté de ma vie et de vraiment ce que je voulais faire. Et le problème, c'est que c'est pas à moi que je m'en voudrais, ce sera à vous. Et j'ai pas envie que sur les dernières années de ma vie avec vous, que je vais partager avant que vous mouriez, de vous en vouloir parce que j'ai perdu en fait la moitié de ma vie. Et donc bah, j'ai eu cette discussion avec eux, ils m'ont dit ok, pas de souci. Et puis c'était vraiment en fait par la communication que bah, pour eux c'était ok que je développe mon entreprise et que je fais justement ce que je fais aujourd'hui. Et je pense que bah, ils sont beaucoup plus fiers de moi aujourd'hui avec ce que j'ai entrepris et les résultats que j'amène justement à mes clients, la transformation que j'apporte au monde, plutôt que si j'avais simplement fait une école d'ingénieur et que j'essaie de devenir ingénieur. Donc voilà, c'est vraiment ces éléments-là.
Donc moi, ce que je retiens, là, c'est de vraiment commencer par identifier nos blocages. Et du moment que tu as réussi à surmonter ça, si je continue avec mon exemple de l'écriture du livre, la personne, par exemple, qui réussit à surmonter cette peur-là du jugement de sa famille, ben après ça, là, maintenant que tu as réussi à changer ton mindset, ton état d'esprit, et que tu allies ça, un mindset gagnant, un mindset productif, maintenant avec les outils techniques que tu as mis en œuvre, là. Donc là, ta to-do list, ton planning, ton organisation, tes routines, et là, ça fait une explosion. Et c'est là, justement, qu'on devient un maître de son temps. Parce que ton état d'esprit est correct, elle est OK, elle te permet vraiment d'être efficace et tout. Il n'y a pas de, t'as surmonté tes blocages psychologiques. Et ensuite de ça, toutes les choses techniques que tu as mis en œuvre dans ta vie pour t'organiser, ça fait comme un mariage parfait. Et c'est ouais. Là vraiment qu'on peut expérimenter la vraie productivité.
Je dirais que la majorité des gens n'expérimentent pas ce que c'est la vraie productivité, tu vois. Pour beaucoup de personnes, ils sont juste occupés dans leur journée, mais ils sont pas vraiment efficaces, ils sont pas vraiment épanouis, tu vois, dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que ils vont préférer passer 4 heures de temps avec leurs proches, même si c'est pas ce qu'ils ont vraiment envie. Peut-être qu'ils pourraient être vraiment épanouis, ils devraient passer juste 1 heure avec eux, mais vraiment en étant vraiment présents, donc sans être sur leur smartphone la moitié du temps, pour vraiment être entre guillemets efficace dans le cadre de l'épanouissement. Et c'est très juste ce que tu dis, qu'il n'y a que quand tu alignes ton mindset et justement les outils et la compréhension des thématiques que tu peux vraiment mettre en place quelque chose qui te permet d'être sincèrement efficace. Et c'est pour ça que les gens me surnomment le maître du temps, c'est parce que justement, ils ont des transformations au niveau temporel d'efficacité qui sont en fait au-delà de leurs croyances. Et même moi, au-delà de mes croyances, parce que au fur et à mesure, j'ai élevé mes standards par rapport à ça. Pour moi, déjà un x2 d'efficacité, c'était déjà quelque chose de bien. Puis pour moi maintenant, bah c'est ma norme, c'est-à-dire que j'accompagne personne si je sais que je suis capable de lui amener un x2 d'efficacité, et je lui promets ça s'il est prêt à faire le nécessaire. Et par contre, ça a un prix. Ça, c'est aussi la chose qu'on parle pas forcément, c'est que ben malheureusement, on a le choix d'être médiocre ou de ne pas être médiocre. J'aime beaucoup la phrase si tu veux être une anomalie, tu dois agir comme tel. Et y a pas tout le monde qui est prêt pour écrire un livre. Il y a pas tout le monde qui est prêt à faire les sacrifices nécessaires, qui est prêt à faire l'introspection nécessaire, qui est prêt à se remettre en question, qui est prêt à pleurer devant sa feuille en se disant mais purée, mais en fait je suis quelqu'un de pathétique par rapport à mon comportement. Mais c'est ok parce que ça veut dire que maintenant j'ai conscience de qui je suis vraiment et de comment je peux évoluer et redéfinir. À nouveau, je dirais la même chose que j'ai dit avant. Tant qu'on n'a pas défini la personne que l'on veut être et qu'on a travaillé pour devenir cette personne-là, alors on est juste la somme de son vécu et des résultats justement de notre vécu. Donc, disons qu'on peut même encore aller plus loin, tu vois, par rapport à l'état d'esprit. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis bah voilà, un podcast, je le monte en à peu près ouais 1 heure sur une entrevue justement de 30 minutes, 40 minutes, il me faut 1 heure de montage en post-prod pour pouvoir le faire. Et si maintenant, en fait, tu le faisais en 30 minutes? Et si tu te posais, OK, maintenant, je vais le faire en 30 minutes et c'est ta norme, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de tâches, beaucoup de choses que l'on fait dans notre quotidien qui peuvent être encore optimisées. Et c'est juste, en fait, une question de croyance. Moi, quand j'ai commencé à développer un projet, tu vois, l'année de mes 16 ans, jamais j'allais me dire que, OK, l'année de mes 20 ans, j'en développais 9 en parallèle, tu vois. Et c'est que quand je suis arrivé à un networking, puis qu'il y a une personne qui m'a dit « Ouais, mais Gaëtan, t'es un génie, c'est pas possible. » Je me suis dit « Attends, mais quoi? Mais je suis pas un génie. » Loin de là, tout le monde arrive à faire ce que je fais. Pas tout le monde est prêt à faire le nécessaire pour y arriver, mais tout le monde est capable. On a tous un potentiel illimité, on est tous capables de faire de grandes choses. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour y arriver? Et ça, ben, c'est encore autre chose, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à faire le nécessaire.
Tout à fait. Écoute, merci hein, Gaëtan pour tous ces conseils. Vraiment, je trouve que c'est super enrichissant. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur ta méthode, où est-ce qu'ils peuvent te découvrir?
Alors, sur lemaitredutemps.fr, j'ai toute une section ressources où je mets des vidéos de formation, mais elles sont présentes sur ma chaîne YouTube aussi, où justement, ben, je fais prendre conscience par rapport au comportement généralement, parce que ça commence par ça. Si t'as pas conscience du comportement que t'as, des problématiques que tu rencontres dans ton quotidien, notamment, ben, pourquoi en fait il y a des personnes qui sont sans cesse en train de courir après le temps, ben, je vous invite à aller regarder cette vidéo, vous allez comprendre très succinctement pourquoi en fait c'est le cas. Et voilà, donc lemaitredutemps.fr, j'ai une catégorie ressources, vous pouvez y trouver justement plusieurs vidéos gratuites justement de formation.
Voilà. Alors, merci en tout cas d'être passé sur le podcast. Je te souhaite une bonne continuité dans tes projets et on se reparle une prochaine fois. Salut Gaétan.
Merci Mathieu.
Donc, c'était mon entrevue avec Gaétan Rossier. J'espère que vous avez apprécié cette discussion-là. Moi, personnellement, ce que je retiens, c'est que il ne faut pas sous-estimer la dimension psychologique. Parfois, on essaie de pallier ou de répondre à nos problèmes par des choses extérieures du genre il faut que je m'achète un nouveau livre, il faut que je m'achète une nouvelle formation, il faut que j'utilise une autre application dernier cri. Mais parfois, nos vrais défis, nos vrais blocages en lien avec notre passage à l'action, c'est tout simplement dans notre tête, entre nos deux oreilles. Notre mindset est super important. Notre mindset, notre état d'esprit influence directement notre efficacité. Alors, comme Gaétan l'a si bien dit, un des bons points de départ dans votre cheminement vers une meilleure organisation, une meilleure efficacité, c'est de vous arrêter et de remettre en question parfois les blocages que vous pouvez expérimenter, changer vos façons de faire, arrêter de dire le mot « je n'ai pas le temps », arrêter de croire des mensonges du genre « je ne suis pas capable, je suis désorganisé, l'organisation ce n'est pas pour moi ». En faisant de la reprogrammation mentale, comme Gaétan le suggérait, on est capable de changer notre vision du monde, notre vision des choses, et ultimement, de se libérer pour performer à notre plein potentiel. Donc, encore une fois, j'espère que vous avez aimé notre discussion. Vous pouvez aller suivre Gaétan sur son site web, lemaitredutemps.fr. Si vous voulez engager la discussion, poser une question, laisser un commentaire en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, rendez-vous au mathieuderoche.com/09 et il y a une boîte de discussion sur mon site web. Vous pouvez laisser un commentaire. Sinon, moi, j'ai vraiment aimé passer ce moment avec vous. Merci pour votre écoute et on se donne rendez-vous dans un prochain épisode de Productif au quotidien.